Théophile Gautier, la préface du roman Mademoiselle de Maupin. Une des choses les plus burlesques de la glorieuse époque où nous avons le bonheur de vivre est incontestablement la réhabilitation de la vertu entreprise par tous les journaux, de quelque couleur qu'ils soient, rouge, vert ou tricolore. La vertu est assurément quelque chose de fort respectable, et nous n'avons pas envie de lui manquer, Dieu nous en préserve. La bonne et digne femme, ah, nous trouvons que ses yeux ont assez de brillant à travers leur besicle, que son bas n'est pas trop mal tiré, qu'elle prend son tabac dans sa boîte d'or avec toute la grâce imaginable, que son petit chien fait la révérence comme un maître à danser. Nous trouvons tout cela. Nous conviendrons même que pour son âge, elle n'est pas trop mal en point et qu'elle porte ses années. On ne peut mieux. C'est une grand-mère très agréable. Mais c'est une grand-mère. Il me semble naturel de lui préférer, surtout quand on a 20 ans, quelques petites immoralités bien pimpantes, bien coquettes, bien bonnes filles, les cheveux un peu défrisés, la jupe plutôt courte que longue, le pied et l'œil agaçant, la joue légèrement allumée, le rire à la bouche et le cœur sur la main. Les journalistes les plus monstrueusement vertueux ne sauraient être d'un avis différent. S'ils disent le contraire, il est très probable qu'ils ne le pensent pas. Penser une chose, en écrire une autre, cela arrive tous les jours, surtout aux gens vertueux. Je me souviens des colibets lancés avant la Révolution, c'est celle de juillet que je parle, contre ce malheureux et virginal vicomte Sosthène de La Rochefoucauld, qui allongea les robes des danseuses de l'opéra et appliqua de ses mains patriciennes un pudique emplâtre sur le milieu de toutes les statues. Monsieur le vicomte Sosthène de La Rochefoucauld est dépassé de bien loin. La pudeur a été très perfectionnée depuis ce temps, et l'on entre en des raffinements qu'il n'aurait pas imaginés. Moi, qui n'ai pas l'habitude de regarder les statues à de certains endroits, je trouvais comme les autres la feuille de vigne découpée par les ciseaux de monsieur le chargé des beaux-arts, la chose la plus ridicule du monde. Il paraît que j'avais tort et que la feuille de vigne est une institution des plus méritoires. On m'a dit, j'ai refusé d'y ajouter foi tant cela me semblait singulier, qu'il existait des gens qui, devant la fresque du Jugement dernier de Michel-Ange, n'y avait rien vu d'autre chose que l'épisode des prélats libertins, et s'était voilé la face en criant à l'abomination de la désolation. Ces gens-là ne savent aussi de la romance de Rodrigue que le couplet de la couleuvre. S'il y a quelque nudité dans un tableau ou dans un livre, ils y vont droit comme le porc à la fange et ne s'inquiètent pas des fleurs épanouies ni des beaux fruits dorés qui pendent de toutes parts. J'avoue que je ne suis pas assez vertueux pour cela. Dorine, la soubrette effrontée, peut très bien étaler devant moi sa gorge rebondie. Certainement, je ne tirerai pas mon mouchoir de ma poche pour couvrir ce sein que l'on ne saurait voir. Je regarderai sa gorge comme sa figure, et si elle la blanche est bien formée, j'y prendrai plaisir. Mais je ne tâterai pas si la robe d'Elmire est moelleuse, et je ne la pousserai pas saintement sur le bord de la table, comme faisait ce pauvre homme de Tartuffe. Cette grande affectation de morale qui règne maintenant serait fort risible si elle n'était pas ennuyeuse. Chaque feuilleton devient une chaire, chaque journaliste un prédicateur. Il n'y manque que la tonsure et le petit collet. Le temps est à la pluie et à l'homélie. On se défend de l'une et de l'autre en ne sortant qu'en voiture et en relisant Pantagruel, entre sa bouteille et sa pipe. Mon doux Jésus, quel déchaînement, quelle furie! Qui vous a mordu? Qui vous a piqué? Que diable avez-vous donc pour crier si haut? Et que vous a fait ce pauvre vice pour lui en tant vouloir, lui qui est si bon homme, si facile à vivre, et qui ne demande qu'à s'amuser lui-même et à ne pas ennuyer les autres, si faire se peut? Agissez avec le vice comme sert avec le gendarme. Embrassez-vous et que tout cela finisse. Croyez-moi, vous vous en trouverez mieux. Eh, mon Dieu, messieurs les prédicateurs, que feriez-vous donc sans le vice? Vous seriez réduits dès demain à la mendicité si l'on devenait vertueux aujourd'hui. Les théâtres seraient fermés ce soir. Alors sur quoi feriez-vous votre feuilleton? Plus de bals de l'opéra pour remplir vos colonnes, plus de romans à disséquer, car bals, romans, comédies sont les vraies pompes de Satan, si l'on en croit notre sainte mère l'Église. L'actrice renverrait son entreteneur et ne pourrait plus vous payer son éloge. On ne s'abonnerait plus à vos journaux, on lirait Saint-Augustin, on irait à l'église, on dirait son rosaire. Oh, cela serait peut-être très bien, mais à coup sûr, vous n'y gagneriez pas. Si l'on était vertueux, où placeriez-vous vos articles sur l'immoralité du siècle? Vous voyez bien que le vice est bon à quelque chose. Mais c'est la mode, maintenant, d'être vertueux et chrétien. C'est une tournure qu'on se donne. On se pose en Saint Jérôme, comme autrefois en Don Juan. L'on est pâle et macéré, et l'on porte des cheveux à l'apôtre. L'on marche les mains jointes et les yeux fichés en terre. On prend un petit air confit en perfection. On a une Bible ouverte sur sa cheminée, un crucifix et du buis béni à son lit. L'on ne jure plus, l'on fume peu et l'on chique à peine. Alors, on est chrétien. L'on parle de la sainteté de l'art, de la haute mission de l'artiste, de la poésie du catholicisme, de M. Lamennais, des prêtres de l'école angélique, du concile de Trente, de l'humanité progressive et de mille autres belles choses. Quelques-uns vont infuser dans leur religion un peu de républicanisme. Ce ne sont pas les moins curieux. Ils accouplent Robespierre et Jésus-Christ de la façon la plus joviale et amalgament avec un sérieux digne éloge les actes des apôtres et les décrets de la Sainte Convention, c'est l'épithète sacramentelle. D'autres y ajoutent, pour dernier ingrédient, quelques idées saint-simoniennes. Ceux-là sont complets et carrés par la base. Après eux, il faut tirer l'échelle. Il n'est pas donné au ridicule humain d'aller plus loin. As ultra metas, etc. Ce sont les colonnes d'Hercule du burlesque. Le christianisme est tellement en vogue par la tartufferie qui court que le néo-christianisme lui-même jouit d'une certaine faveur. On dit qu'il compte jusqu'à un adepte, y compris M. Drouineau. Une variété extrêmement curieuse du journaliste proprement dit moral, c'est le journaliste à famille féminine. Celui-là pousse la susceptibilité pudique jusqu'à l'anthropophagie, où peu s'en faut. Sa manière de procéder, pour être simple et facile au premier coup d'œil, n'en est pas moins bouffonne et superlativement récréative, et je crois qu'elle vaut qu'on la conserve à la postérité, à nos derniers neveux, comme disaient les perruques du prétendu grand siècle. Pour se poser en journaliste de cette espèce, il faut quelques petits ustensiles préparatoires, tels que deux ou trois femmes légitimes, quelques mères, le plus de sœurs possible, un assortiment de filles complet et des cousines innombrablement. Ensuite, il faut une pièce de théâtre ou un roman quelconque, une plume, de l'encre, du papier et un imprimeur. Il faudrait peut-être bien une idée et plusieurs abonnés, mais on s'en passe avec beaucoup de philosophie et l'argent des actionnaires. Quand on a tout cela, l'on peut s'établir journaliste moral. Les deux recettes suivantes, convenablement variées, suffisent à la rédaction. Modèle d'article vertueux sur une première représentation. Après la littérature de sang, la littérature de fange. Après la morgue et le bagne, l'alcôve et le lupanar. Après les guenilles tachées par le meurtre, les guenilles tachées par la débauche. Après, etc. Selon le besoin et l'espace, on peut continuer sur ce ton depuis 6 lignes jusqu'à 50 et au-delà. C'est justice. Voilà où mène l'oubli des saintes doctrines et le dévergondage romantique. Le théâtre est devenu une école de prostitution, où l'on n'ose se hasarder qu'en tremblant avec une femme qu'on respecte. Vous venez sur la foi d'un nom illustre et vous êtes obligé de vous retirer au 3e acte avec votre jeune fille toute troublée et toute décontenancée. Votre femme cache sa rougeur derrière son éventail. Votre sœur, votre cousine, etc., etc. On peut diversifier les titres de parenté. Il suffit que ce soit des femelles. Nota. Il y en a un qui a poussé la moralité jusqu'à dire « Je n'irai pas voir ce drame avec ma maîtresse. Celui-là, je l'admire et je l'aime. Je le porte dans mon cœur, comme Louis XVIII portait toute la France dans le sien. Car il a eu l'idée, la plus triomphante, la plus pyramidale, la plus ébouriffée, la plus luxurienne qui soit tombée dans une cervelle d'homme en ce Benoît XIXe siècle où il en est tombé tant et de si drôle. La méthode pour rendre compte d'un livre est très expéditive et à la portée de toutes les intelligences. Si vous voulez lire ce livre, enfermez-vous soigneusement chez vous. Ne le laissez pas traîner sur la table. Si votre femme et votre fille venaient à l'ouvrir, elles seraient perdues. Ce livre est dangereux. Ce livre conseille le vice. Il aurait peut-être eu un grand succès, autant de crébillons dans les petites maisons, au souper fin des duchesses. Mais maintenant que les mœurs se sont épurées, maintenant que la main du peuple a fait crouler l'édifice verboulu de l'aristocratie, etc., etc., que... Il faut dans toute œuvre une idée morale et religieuse, qui, enfin, une vue haute et profonde, répondant aux besoins de l'humanité. Car il est déplorable que de jeunes écrivains sacrifient au succès les choses les plus saintes et usent un talent estimable d'ailleurs à des peintures lubriques qui feraient rougir des capitaines de dragons. La virginité du capitaine de dragons est, après la découverte de l'Amérique, la plus belle découverte que l'on ait faite depuis longtemps. Le roman dont nous faisons la critique s'appelle Thérèse, philosophe, Félicia, le compère Mathieu, les contes de Grécourt. Le journaliste vertueux est d'une érudition immense en fait de romans ordurieux. Je serais curieux de savoir pourquoi. Il est effrayant de songer qu'il y a, de par les journaux, beaucoup d'honnêtes industriels qui n'ont que ces deux recettes pour subsister. Eux et la nombreuse famille qu'ils emploient. Apparemment que je suis le personnage le plus énormément immoral qu'il se puisse trouver en Europe et ailleurs, car je ne vois rien de plus licencieux dans les romans et les comédies de maintenant que dans les romans et les comédies d'autrefois. Et je ne comprends guère pourquoi les oreilles de messieurs des journaux sont devenues tout à coup si janséniquement chatouilleuse. Je ne pense pas que le journaliste le plus innocent ose dire que Pigault Lebrun, Crébillon fils, Louvet, Voisenon, Marmontel et tous les autres faiseurs de romans et de nouvelles ne dépassent en immoralité, puisqu'immoralité il y a, les productions les plus échevelées, les plus dévergondées de messieurs tels et tels, que je ne nomme pas, par égard pour leur pudeur. Il faudrait la plus ainsi mauvaise foi pour n'en pas convenir. Qu'on ne m'objecte pas que j'ai allégué ici des noms peu ou mal connus, si je n'ai pas touché aux noms éclatants et monumentaux, ce n'est pas qu'ils ne puissent appuyer mon assertion de leur grande autorité. Les romans et les contes de Voltaire ne sont assurément pas, à la différence de mérite près, beaucoup plus susceptibles d'être donnés en prix aux petites tartines des pensionnats que les contes immoraux de notre ami le lycanthrope ou même que les contes moraux du doucereux Marmontel. Que voit-on dans les comédies du grand Molière? La sainte institution du mariage, style de catéchisme de journaliste, bafouée et tournée en ridicule à chaque scène. Le mari est vieux et laid et cacochime. Il met sa perruque de travers, son habit n'est plus à la mode, il a une canne à bec de corbin, le nez barbouillé de tabac, les jambes courtes, l'abdomen gros comme un budget. Il bredouille et ne dit que des sottises. Il en fait autant qu'il en dit. Il ne voit rien, il n'entend rien. On embrasse sa femme à sa barbe. Il ne sait pas de quoi il est question. Cela dure ainsi jusqu'à ce qu'il soit bien et dûment constaté cocu à ses yeux et aux yeux de toute la salle, on ne peut plus édifier, et qui applaudit à tout rompre. Ceux qui applaudissent le plus sont ceux qui sont le plus mariés. Le mariage s'appelle, chez Molière, Georges Dandin ou Sganarelle. L'adultère, Damis ou Clitandre. Il n'y a pas de nom assez douloureux et charmant pour lui. L'adultère est toujours jeune, beau, bien fait et marquis pour le moins. Il entre en chantonnant à la cantonade la courante la plus nouvelle. Il fait un ou deux pas de scène en l'air, le plus délibéré et le plus triomphant du monde. Il se gratte l'oreille avec l'ongle rose de son petit doigt coquettement écarquillé. Il peigne avec son peigne d'écaille sa belle chevelure blondine et rajuste ses canons qui sont du grand volume. Son pourpoint et son haut de chausse disparaissent sous les aiguillettes et les nœuds de ruban. Son rabat est de la bonne faiseuse. Ses gants flairent mieux que benjoin et civette. Ses plumes ont coûté un louis le brun. Comme son œil est en feu et sa joue en fleur, que sa bouche est souriante, que ses dents sont blanches, comme sa main est douce et bien lavée. Il parle, ce ne sont que madrigaux, galanteries, parfumées en un beau style précieux et du meilleur air. Il a lu les romans, et c'est la poésie, il est vaillant et prompt à dégainer, il sème l'or à pleine main. Aussi, Angélique, Agnès, Isabelle se peuvent à peine tenir de lui sauter au cou, si bien élevée, si grande dame qu'elle soit. Aussi le mari est-il régulièrement trompé au cinquième acte, bien heureux, quand ce n'est pas dès le premier. Voilà, comme le mariage est traité par Molière, l'un des plus hauts et des plus graves génies qui jamais ait été. Croit-on qu'il y ait rien de plus fort dans les réquisitoires d'Indiana et de Valentine? La paternité est encore moins respectée, s'il est possible. Voyez Orgon, voyez Géronte, voyez-les tous. Comme ils sont volés par leurs fils, battus par leurs valets. Comme on met à nu, sans pitié pour leur âge et leur avarice et leur entêtement et leur imbécilité. Quelle plaisanterie, quelle mystification! Comme on les pousse par les épaules hors de la vie, des pauvres vieux qui sont longs à mourir et qui ne veulent point donner leur argent. Comme on parle de l'éternité des parents. Quel plaidoyer contre l'hérédité! Et comme cela est plus convaincant que toutes les déclamations saint-simoniennes. Un père, c'est un ogre, c'est un argus, c'est un geôlier, un tyran, enfin, quelque chose qui n'est bon tout au plus qu'à retarder un mariage pendant trois actes jusqu'à la reconnaissance finale. un père est le mari ridicule au grand complet. Jamais un fils n'est ridicule dans Molière, car Molière, comme tous les auteurs de tous les temps possibles, faisait sa cour à la jeune génération, aux dépens de l'ancienne. Et les scapins, avec leurs capriers à la napolitaine et leurs bonnets sur l'oreille, et leurs plumes balayant les bandes d'air, ne sont-ils pas des gens bien pieux, bien chastes et bien dignes d'être canonisés? Les bagnes sont pleins d'honnêtes gens qui n'ont pas fait le quart de ce qu'ils font. Les roueries de Trialfe sont de pauvres roueries en comparaison des leurs. Et les Lisettes et les Martons, quelles gaillardes, tu Dieu! Les courtisanes des rues sont loin d'être aussi délurées, aussi promptes à la riposte grivoise. Comme elles s'entendent à remettre un billet, comme elles font bien la garde pendant les rendez-vous. Ce sont, sur ma parole, de précieuses filles, serviables et de bons conseils. C'est une charmante société qui s'agite et se promène à travers ses comédies et ses imbroglios. Tuteur Dupé, mari cocu, suivante libertine, valets et greffins, demoiselles folles d'amour, fils débauchés, femmes adultères. Cela ne vaut-il pas bien les jeunes beaux mélancoliques et les pauvres faibles femmes opprimées et passionnées des drames et des romans de nos faiseurs en vogue? Et tout cela, moins le coup de dague final, moins la tasse de poison obligée. Les dénouements sont aussi heureux que les dénouements des contes de fées, et tout le monde, jusqu'au mari, est on ne peut plus satisfait. Dans Molière, la vertu est toujours niée et rossée. C'est elle qui porte les cornes et tend le dos à Mascarille. À peine si la moralité apparaît une fois à la fin de la pièce sous la personnification un peu bourgeoise de l'exempt loyal. Tout ce que nous venons de dire ici n'est pas pour écorner le piédestal de Molière. Nous ne sommes pas assez fous pour aller secouer ce colosse de bronze avec nos petits bras. Nous voulions simplement démontrer aux pieux feuilletonistes qu'effarouchent les ouvrages nouveaux et romantiques que les classiques anciens, dont ils recommandent chaque jour la lecture et l'imitation, les surpassent de beaucoup en gaillardise et en immoralité. À Molière, nous pourrions aisément joindre et Marivaux et La Fontaine, ces deux expressions si opposées de l'esprit français, et Régnier, et Rabelais, et Marot, et bien d'autres. Mais notre intention n'est pas de faire ici, à propos de morale, un cours de littérature à l'usage des vierges du feuilleton. Il me semble que l'on ne devrait pas faire tant de tapages à propos de si peu. Nous ne sommes heureusement plus au temps d'Ève la Blonde, et nous ne pouvons en bonne conscience être aussi primitifs et aussi patriarcaux que l'on était dans l'Arche. Nous ne sommes pas des petites filles se préparant à leur première communion. Et quand nous jouons au corbillon, nous ne répondons pas « tarte à la crème ». Notre naïveté est assez passablement savante, et il y a longtemps que notre virginité court la ville. Ce sont là de ces choses que l'on n'a pas deux fois, et quoi que nous fassions, nous ne pouvons les rattraper, car il n'y a rien au monde qui court plus vite qu'une virginité qui s'en va et qu'une illusion qui s'envole. Après tout, il n'y a peut-être pas grand mal, et la science de toute chose est-elle préférable à l'ignorance de toute chose? C'est une question que je laisse à débattre à de plus savants que moi. Toujours est-il que le monde a passé l'âge où l'on peut jouer la modestie et la pudeur, et je le crois trop vieux, barbon, pour faire l'enfantin et le virginal sans se rendre ridicule. Depuis son hymen avec la civilisation, la société a perdu le droit d'être ingénue et pudibonde. Il est de certaines rougeurs qui sont encore de mise au coucher de la mariée et qui ne peuvent plus servir le lendemain. Car la jeune femme ne se souvient peut-être plus de la jeune fille, ou, si elle s'en souvient, c'est une chose très indécente, et qui compromet gravement la réputation du mari. Quand je lis par hasard un de ces beaux sermons qui ont remplacé dans les feuilles publiques la critique littéraire, il me prend quelquefois de grands remords et de grandes appréhensions, à moi qui ai sur la conscience quelques menus gaudrioles un peu trop fortement épicés, comme un jeune homme qui a du feu et de l'entrain peut en avoir à se reprocher. À côté de ces bossuets du café de Paris, de ces bourdaloues du balcon de l'opéra, de ces catons à tant la ligne qui gourmandent le siècle d'une si belle façon, je me trouve en effet le plus épouvantable scélérat qui ait jamais souillé la face de la terre. Et pourtant, Dieu le sait, la nomenclature de mes péchés, tant capitaux que véniels, avec les blancs et interlignes de rigueur, pourrait à peine, entre les mains du plus habile libraire, former un ou deux volumes in octavo par jour, ce qui est peu de chose pour quelqu'un qui n'a pas la prétention d'aller en paradis dans l'autre monde et de gagner le prix Montyon ou d'être rosière en celui-ci. Puis, quand je pense que j'ai rencontré sous la table, et même ailleurs, un assez grand nombre de ces dragons de vertu, je reviens à une meilleure opinion de moi-même et j'estime qu'avec tous les défauts que je puisse avoir, ils en ont un autre qui est bien à mes yeux le plus grand et le pire de tous, c'est l'hypocrisie que je veux dire. En cherchant bien, on trouverait peut-être un autre petit vice à ajouter, mais celui-ci est tellement hideux qu'en vérité je n'ose presque pas le nommer. Approchez-vous, et je m'en vais vous couler son nom dans l'oreille. C'est l'envie. L'envie et pas autre chose. C'est elle qui s'en va rampant et serpentant à travers toutes ces paternes homélies. Quel que soin qu'elle prenne de se cacher, on voit briller de temps en temps, au-dessus des métaphores et des figures de rhétorique, sa petite tête plate de vipère. On la surprend à lécher de sa langue fourchue ses lèvres toutes bleues de venin. On l'entend siffloter tout doucettement à l'ombre d'une épithète insidieuse. Je sais bien que c'est une insupportable fatuité de prétendre qu'on vous envie et que cela est presque aussi nauséabond qu'un merveilleux qui se vante d'une bonne fortune. Je n'ai pas la forfanterie de me croire des ennemis et des envieux. C'est un bonheur qui n'est pas donné à tout le monde. Et je ne l'aurai probablement pas de longtemps. Aussi, je parlerai librement et sans arrière-pensée comme quelqu'un de très désintéressé dans cette question. Une chose certaine et facile à démontrer à ceux qui pourraient en douter, c'est l'antipathie naturelle de critique contre le poète, de celui qui ne fait rien contre celui qui fait, du frelon contre l'abeille, du cheval ongre contre l'étalon. Vous ne vous faites critique qu'après qu'il est bien constaté à vos propres yeux que vous ne pouvez être poète. Avant de vous réduire au triste rôle de garde élémentaux et de noter les coups comme un garçon de billard ou un valet du jeu de paume, vous avez longtemps courtisé la muse. Vous avez essayé de la dévirginer, mais vous n'avez pas assez de vigueur pour cela. L'haleine vous a manqué et vous êtes retombé pâle et efflanqué au pied de la sainte montagne. Je conçois cette haine. Il est douloureux de voir un autre s'asseoir au banquet où l'on n'est pas invité et coucher avec la femme qui n'a pas voulu de vous. Je plains de tout mon cœur le pauvre eunuque, obligé d'assister aux ébats du grand seigneur. Il est admis dans les profondeurs les plus secrètes de l'Oda. Il mène les sultans au bain. Il voit luire sous l'eau d'argent des grands réservoirs ses beaux corps tout ruisselants de perles les plus polies que des agates. Les beautés les plus cachées lui apparaissent sans voile. On ne se gêne pas devant lui. C'est un eunuque. Le sultan caresse sa favorite en sa présence et la baise sur sa bouche de grenade. En vérité, c'est une bien fausse situation que la sienne, et il doit être bien embarrassé de sa contenance. Bien, il en est de même pour le critique, qui voit le poète se promener dans le jardin de poésie avec ses 9 belles oldalisques et s'ébattre paresseusement à l'ombre de grands lauriers verts. Il est bien difficile qu'il ne ramasse pas les pierres du grand chemin pour les lui jeter et le blesser derrière son mur, s'il est assez adroit pour cela. Le critique qui n'a rien produit est un lâche. C'est comme un abbé qui courtise la femme d'un laïc. Celui-ci ne peut lui rendre l'appareil ni se battre avec lui. Je crois que ce serait une histoire au moins aussi curieuse que celle du Téglaf-Falazar ou de Jem Magog qui inventa les souliers à poulaine, que l'histoire des différentes manières de déprécier un ouvrage quelconque depuis un mois jusqu'à nos jours. Il y a assez de matière pour 15 ou 16 volumes in folio. Mais nous aurons pitié du lecteur et nous nous bornerons à quelques lignes, bienfaits pour lesquels nous demandons une reconnaissance plus qu'éternelle. À une époque très reculée, qui se perd dans la nuit des âges, il y a bientôt, tantôt 3 semaines de cela, le roman Moyen-Âge florissait principalement à Paris et dans la banlieue. La côte arborier était en grand honneur. On ne méprisait pas les coiffures à la Hennin, on estimait fort le pantalon mi-parti, la dague était hors de prix, le soulier à poulaine était adoré comme un fétiche. Ce n'était qu'ogive, tourelles, colonnettes, verrières coloriées, cathédrales et châteaux forts. Ce n'était que demoiselles et damoiseaux, pages et valets, truands et soudards, galants chevaliers, châtelains féroces, toutes choses certainement plus innocentes que les jeux innocents et qui ne faisaient de mal à personne. La critique n'avait pas attendu au second roman pour commencer son œuvre de dépréciation. Dès le premier qui avait paru, il s'était enveloppé de son cilice de poil de chabot et s'était répandu un boisseau de cendres sur la tête. Puis, prenant sa grande voix de lente, il s'était mis à crier « Encore du Moyen-Âge! Toujours du Moyen-Âge! Qui me délivrera du Moyen-Âge? De ce Moyen-Âge qui n'est pas le Moyen-Âge! Moyen-Âge de carton et de terre cuite, qui n'a du Moyen-Âge que le nom! Oh, les barons de fer! Dans leur armure de fer, avec leur cœur de fer, dans leur poitrine de fer. Oh, les cathédrales, avec leurs rosaces toujours épanouies, et leurs verrières en fleurs, avec leurs dentelles de granit, avec leurs trèfles découpés à jour, leurs pignons taillés à des encis, avec leurs chasubles de pierre brodées comme un voile de mariée, avec leurs cierges, avec leurs chants, avec leurs prêtres étincelants, avec leur peuple à genoux, avec leur orgue qui bourdonne et leurs anges planant et battant de l'aile sous les voûtes. Comme ils m'ont gâté mon Moyen-Âge si fin et si coloré, comme ils l'ont fait disparaître sous une couche de grossier badigeon. Quelles criardes enluminures ! Ah, barbouilleurs ignorants, qui croyaient avoir fait de la couleur pour avoir plaqué rouge sur bleu, blanc sur noir, et vert sur jaune. Vous n'avez vu du Moyen-Âge que les Corses, vous n'avez pas deviné l'âme du Moyen-Âge. Le sang ne circule pas dans la peau dont vous revêtez vos fantômes. Il n'y a pas de cœur dans vos corselets d'acier. Il n'y a pas de jambes dans vos pantalons de tricot. Pas de ventre ni de gorge derrière vos jupes arboriées. Ce sont des habits qui ont la forme d'homme et voilà tout. Donc à bas le Moyen-Âge, tel que nous l'ont fait les faiseurs, le grand mot est lâché, les faiseurs. Le Moyen-Âge ne répond à rien maintenant, nous voulons autre chose. Et le public, voyant que les feuilletonistes aboyaient au Moyen-Âge, se prit d'une belle passion pour ce pauvre Moyen-Âge qu'il prétendait avoir tué du coup. Le Moyen-Âge envahit tout. Aidé par l'empêchement des journaux. Drame, mélodrame, romance, nouvelle, poésie. Il y eut jusqu'à des vaudevilles Moyen-Âge. Et Momus répéta des flonflons féodaux. À côté du roman Moyen-Âge, verdissait le roman charogne, genre de roman très agréable, et dont les petites maîtresses nerveuses et les cuisinières blasées faisaient une très grande consommation. Les feuilletonistes sont bien vite arrivés à l'odeur, comme des corbeaux à la curée, et ils ont dépecé du bec de leurs plumes et méchamment mis à mort ce pauvre genre de roman qui ne demandait qu'à prospérer et à se putréfier paisiblement sur les rayons graisseux des cabinets de lecture. Que n'ont-ils pas dit? Que n'ont-ils pas écrit? Littérature de morgue ou de bagne, cauchemar de bourreau, hallucination de boucher ivre et d'argousin qui a la fièvre chaude. Ils donnaient bénignement à entendre que les auteurs étaient des assassins et des vampires, qu'ils avaient contracté la vicieuse habitude de tuer leur père et leur mère, qu'ils buvaient du sang dans des crânes, qu'ils se servaient de tibia pour fourchette et coupaient leur pain avec une guillotine. Et pourtant, ils savaient mieux que personne, pour avoir souvent déjeuné avec eux, que les auteurs de ces charmantes tueries étaient de braves fils de famille, très débonnards et de bonne société, gantés de blanc, fashionablement myopes, se nourrissant plus volontiers de beefsteak que de côtelettes d'homme, et buvant plus habituellement du vin de Bordeaux que du sang de jeunes filles ou d'enfants nouveau-nés. Pour avoir vu et touché leurs manuscrits, ils savaient parfaitement qu'ils étaient écrits avec de l'encre et de la grande vertu sur du papier anglais, et non avec sang de guillotine sur peau de chrétien écorché vif. Mais, quoi qu'ils dissent ou qu'ils fissent, le siècle était à la charogne et le charnier lui pesait mieux que le boudoir. Le lecteur ne se prenait qu'à un hameçon amorcé d'un petit cadavre déjà bleuissant. Chose très convenable. Mettez une rose au bout de votre ligne. Les araignées auront le temps de faire leur toilette dans le pli de votre coude. Vous ne prendrez pas le moindre petit fretin. Mais accrochez-y un ver ou un morceau de vieux fromage. Carpe, barbillon, perche, anguille sauteront à 3 pieds hors de l'eau pour le happer. Les hommes ne sont pas aussi différents des poissons qu'on a l'air de le croire généralement. On aurait dit que les journalistes étaient devenus Quakers, Brahmes ou Pythagoriciens ou taureaux, tant il leur avait pris une subite horreur du rouge et du sang. Jamais on ne les avait vus si fondants, si émollients. C'était de la crème et du petit lait. Ils n'admettaient que 2 couleurs, le bleu du ciel ou le vert pomme. La rose n'était que sous fer, et si le public les eût laissés faire, ils l'eussent mené paître des épinards sur les rives du Lignon, côte à côte avec les moutons d'Amaryllis. Ils avaient changé leur frac noir contre la veste tourterelle de Céladon ou de Sylvandre, et entouraient leurs plumes d'oie de roses pompons et de faveurs en manière de houlette pastorale. Ils laissaient flotter leurs cheveux à l'enfant et s'étaient fait des virginités d'après la recette de Marion de Lorme, à quoi ils avaient aussi bien réussi qu'elle. Ils appliquaient à la littérature l'article du Décalogue « Homicide, point ne sera ». On ne pouvait plus se permettre le plus petit meurtre dramatique, et le cinquième acte était devenu impossible. Ils trouvaient le poignard exorbitant, le poison monstrueux, la hache inqualifiable. Ils auraient voulu que les héros dramatiques vécussent jusqu'à l'âge de Melchisédek, et cependant, il est reconnu depuis un temps immémorial que le but de toute tragédie est de faire assommer à la dernière scène un pauvre diable de grand homme qui n'en peut mais, comme le but de toute comédie est de conjoindre matrimonialement 2 imbéciles de jeunes premiers d'environ 60 ans chacun. C'est vers ce temps que j'ai jeté au feu, après en avoir tiré un double, ainsi que cela se fait toujours, 2 superbes et magnifiques drames Moyen-Âge, l'un en vers et l'autre en prose, dont les héros étaient écartelés et bouillis en plein théâtre, ce qui eût été très jovial et assez inédit. Pour me conformer à leurs idées, J'ai composé depuis une tragédie antique en cinq actes, mais nommée. Non, 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 faut reprendre pour me conformer. Pour me conformer à leurs idées, j'ai composé depuis une tragédie antique en cinq actes, nommée Héliogabale, dont le héros se jette dans les latrines, situation extrêmement neuve, et qui a l'avantage d'amener une décoration non encore vue au théâtre. J'ai fait aussi un drame moderne, extrêmement supérieur à Antony, Arthur ou l'homme fatal, où l'idée providentielle arrive sous la forme d'un pâté de foie gras de Strasbourg que le héros mange jusqu'à la dernière miette après avoir consommé plusieurs viols, ce qui, joint à ses remords, lui donne une abominable indigestion dont il meurt. Fin morale, s'il en fut, qui prouve que Dieu est juste et que le vice est toujours puni et la vertu récompensée. Quant au genre monstre, vous savez comme ils l'ont traité, comme ils ont arrangé en Islande ce mangeur d'hommes, Abibraf Lobby, Quasimodo le sonneur et Triboulet qui n'est que bossu, toute cette famille si étrangement fourmillante, toutes ces crapauderies gigantesques que mon cher voisin fait grouiller et sauteler à travers les forêts vierges et les cathédrales de ses romans. Ni les grands traits à la Michel-Ange, ni les curiosités dignes de Callot, ni les effets d'ombre et de clair à la façon de Goya, rien n'a pu trouver grâce devant eux. Il leur envoyait à ses odes quand il a fait des romans, à ses romans quand il a fait des drames. Tactique ordinaire des journalistes qui aiment toujours mieux ce qu'on a fait que ce qu'on fait. Heureux homme, toutefois, que celui qui est reconnu supérieur, même par les feuilletonistes, dans tous ses ouvrages, excepté bien entendu celui dont ils rendent compte et qui n'aurait qu'à écrire un traité de théologie ou un manuel de cuisine pour faire trouver son théâtre admirable. Pour le roman de cœur, le roman ardent et passionné, qui a pour père Werther l'allemand et pour mère Manon Lescaut la française, nous avons touché au commencement de cette préface quelques mots de la teigne morale qui s'y est désespérément attachée sous prétexte de religion et de bonne mœurs. Les poux critiques sont comme les poux du corps qui abandonnent les cadavres pour aller aux vivants. Du cadavre du roman Moyen-Âge, les critiques sont passées au corps de celui-ci, qui a la peau dure et vivace, et leur pourrait bien ébrécher les dents. Nous pensons, malgré tout le respect que nous avons pour les modernes apôtres, que les auteurs de ces romans appelés immoraux, sans être aussi mariés que les journalistes vertueux, ont assez généralement une mère et que plusieurs d'entre eux ont des sœurs, et sont pourvus d'une abondante famille féminine. Mais leurs mères et leurs sœurs ne lisent pas de romans, même de romans immoraux. Elles cousent, elles brodent, et s'occupent des choses de la maison. Leurs bas, comme dirait M. Planard, sont d'une entière blancheur. Vous les pouvez regarder aux jambes, elles ne sont pas bleues. Et le bonhomme Chrysale, lui qui haïssait tant les femmes savantes, les proposerait pour exemple à la docte Philaminte. Quant aux épouses de ces messieurs, puisqu'ils en ont tant, si virginaux que soit leur mari, il me semble à moi qu'il est de certaines choses qu'elles doivent savoir. Au fait, il se peut bien qu'il ne leur ait rien montré, alors je comprends qu'ils tiennent à les maintenir dans cette précieuse et benoîte ignorance. Dieu est grand et Mahomet son prophète. Les femmes sont curieuses. Fassent le ciel et la morale qu'elles contentent leur curiosité d'une manière plus légitime qu'Ève leur grand-mère et n'aillent pas faire des questions aux serpents. Pour leurs filles, si elles ont été en pension, je ne vois pas ce que les livres pourraient leur apprendre. Il est aussi absurde de dire qu'un homme est un ivrogne parce qu'il décrit une orgie, un débauché parce qu'il raconte une débauche, que de prétendre qu'un homme est vertueux parce qu'il a fait un livre de morale. Tous les jours on voit le contraire. C'est le personnage qui parle et non l'auteur. Son héros est athée, cela ne veut pas dire qu'il soit athée. Il fait agir et parler les brigands en brigands. Il n'est pas pour cela un brigand. Ah, ce conte, il faudrait guillotiner Shakespeare, Corneille et tous les tragiques. Ils ont plus commis de meurtres que Mandrin et Cartouche. On ne l'a pas fait cependant, et je ne crois même pas qu'on le fasse de longtemps, si vertueuse et si morale que puisse devenir la critique. C'est une des manies de ces petits grimauds à cervelle étroite que de substituer toujours l'auteur à l'ouvrage et de recourir à la personnalité pour donner quelque pauvre intérêt de scandale à leur misérable rhapsodie qu'ils savent bien que personne ne lirait si elle ne contenait que leur opinion individuelle. Nous ne concevons guère à quoi tendent toutes ces criailleries, à quoi bon toutes ces colères et tous ces abois. Et qui pousse, messieurs les Geoffroy aux petits pieds, à se faire les Don Quichotte de la morale, et vrais sergents de ville littéraire, empoignés et à bâtonner au nom de la vertu, toute idée qui se promène dans un livre, la cornette posée de travers, ou la jupe troussée un peu trop haut. C'est fort singulier. L'époque, quoi qu'ils en disent, est immorale. Si ce mot-là signifie quelque chose, ce dont nous doutons fort. Et nous n'en voulons pas d'autre preuve que la quantité de livres immoraux qu'elle produit et le succès qu'ils ont. Les livres suivent les mœurs, et les mœurs ne suivent pas les livres. La Régence a fait Crébillon, ce n'est pas Crébillon qui a fait la Régence. Les petites bergères de Boucher étaient fardées et débraillées parce que les petites marquises étaient fardées et débraillées. Les tableaux se font d'après les modèles et non les modèles d'après les tableaux. Je ne sais qui a dit, je ne sais où, que la littérature et les arts influaient sur les mœurs. Qui que ce soit, c'est indubitablement un grand sot. C'est comme si l'on disait « Les petits pois font pousser le printemps ». Les petits pois poussent au contraire parce que c'est le printemps, et les cerises parce que c'est l'été. Les arbres portent les fruits, et ce ne sont pas les fruits qui portent les arbres, assurément. Loi éternelle et invariable dans sa variété. Les siècles se succèdent et chacun porte son fruit qui n'est pas celui du siècle précédent. Les livres sont les fruits des mœurs. À côté des journalistes moraux, sous cette pluie d'homélie comme sous une pluie d'été dans quelque parc, il a surgi entre les planches du tréteau saint-simonien une théorie de petits champignons d'une nouvelle espèce assez curieuse dont nous allons faire l'histoire naturelle. Ce sont les critiques utilitaires. Pauvres gens qui avaient le nez court à ne le pouvoir chausser de lunettes, et cependant n'y voyaient pas aussi loin que leur nez. Quand un auteur jetait sur leur bureau un volume quelconque, roman ou poésie, ces messieurs se renversaient nonchalamment sur leur fauteuil, le mettait en équilibre sur ses pieds de derrière et, se balançant d'un air capable, il se rengorgeait et disait « À quoi sert ce livre? Comment peut-on l'appliquer à la moralisation et au bien-être de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre? Quoi? Pas un mot des besoins de la société? Rien de civilisant et de progressif? Comment ? Au lieu de faire la grande synthèse de l'humanité et de suivre à travers les événements de l'histoire les phases de l'idée régénératrice et providentielle, peut-on faire des poésies et des romans qui ne mènent à rien et qui ne font pas avancer la génération dans le chemin de l'avenir? Comment peut-on s'occuper de la forme, du style, de la rime en présence de si graves intérêts? Que nous font à nous et le style et la rime et la forme? C'est bien de cela qu'il s'agit. » Pauvres renards, ils sont trop verts. La société souffre, elle est en proie à un grand déchirement intérieur, Traduisez, personne ne veut s'abonner aux journaux utiles. C'est au poète à chercher la cause de ce malaise et à le guérir. Le moyen, il le trouvera en sympathisant de cœur et d'âme avec l'humanité. Des poètes philanthropes, ce serait quelque chose de rare et de charmant. Ce poète, nous l'attendons, nous l'appelons de tous nos voeux. Quand il paraîtra, à lui les acclamations de la foule, à lui les palmes, à lui les couronnes, à lui le prix tanné. À la bonne heure, mais comme nous souhaitons que notre lecteur se tienne éveillé jusqu'à la fin de cette bienheureuse préface, nous ne continuerons pas cette imitation très fidèle du style épistolaire qui, de sa nature, est passablement soporifique et pourrait remplacer avec avantage le Laudanum et les discours d'académie.